Yep, all ready.
I think that I have always been fascinated by a very simple and profound philosophical question is, why do people become who they are? You know, who are we? What are we? And questions of identity are central to that. And over the years, I've now written a number of books. This central question, I think, keeps coming back.
Je pense que j'ai toujours été fascinée par une question philosophique très simple et très profonde. Pourquoi les gens deviennent ce qu'ils sont? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Ces questions sont liées à l'identité, et dans les livres que j'écris, elles reviennent tout le temps. Siri Osved est née en 1955, dans une petite ville du Minnesota, d'une mère norvégienne et d'un père américain. Elle a trois jeunes sœurs. Poétesse, essayiste, féministe, romancière reconnue, elle est docteur en littérature anglaise et depuis 2015 chargée de cours en psychiatrie à l'Université Cornell. Ses œuvres sont traduites dans 16 langues. En France, tous ses livres sont publiés chez Actes Sud. Citons « Les yeux bandés » publié en 96, « Tout ce que j'aimais » en 2003, « Élégie pour un Américain » en 2008, « Un été sans les hommes » 2011, « Un monde flamboyant » 2014. En 2006, alors qu'elle prononce en public un discours en l'honneur de son père décédé 2 ans plus tôt, Siri Osved se met soudain à trembler comme une feuille. Elle est prise de convulsions irrépressibles. Elle analysera 4 ans plus tard ses troubles neurologiques dans un essai intitulé « La femme qui tremble ». Extrait. Confiante et armée de fiches, je parcourus du regard la 50aine d'amis et de collègues de mon père qui s'étaient rassemblés autour du sapin de Norvège commémoratif. Je me lançai dans ma première phrase et fus prise soudain de tremblements violents à partir du cou. Mes bras battaient l'air, mes genoux s'entrechoquaient, je tremblais comme en proie à une attaque. Étrangement, ma voix n'en était pas affectée, elle ne changeait pas du tout. Dérèglement, dédoublement, dissociation, intrusion, la femme, saisie de tremblements, me donnait l'impression en même temps d'être et de ne pas être moi. Du menton au sommet du crâne, j'étais moi, tel que je me connaissais. Mais de mon cou à mes pieds, j'étais une inconnue grelottante. Le dernier essai de l'écrivaine, « Les mirages de la certitude », publié en 2018, met au travail les mêmes questions. Le lien entre le corps et l'esprit, la différence entre l'esprit et le cerveau, la nécessité du doute dans l'étude comme dans l'existence. Siri Osved a de multiples centres d'intérêt. Littérature, poésie, peinture, philosophie, histoire de l'art, psychanalyse, neurosciences. « D'où vous vient cette insatiable soif de connaissance ?» lui demande une journaliste de Elle. La romancière répond « Que voulez-vous ? Je suis atteinte de la maladie de la curiosité. Je ne cesse de me poser des questions, en particulier sur ce que c'est qu'être humain. Tous les domaines sont bons pour m'aider à y répondre, de la neurologie à la philosophie en passant par l'art et la littérature. J'essaie de ne jamais trop me spécialiser. Vous savez ce que c'est ? On passe 30 ans dans un labo et au lieu de s'ouvrir, on devient de plus en plus étriqué. Non, je suis toujours dans le doute ou l'interrogation. Cela me vient sans doute de mes migraines, du fait que j'ai souffert toute ma vie d'une perception défaillante. Je sais trop bien qu'il ne faut pas se fier qu'à sa seule vision. Siri Osved, vous écrivez de la fiction mais aussi des essais, des articles, aux confins de plusieurs disciplines. Comment partagez-vous votre temps entre ces nombreuses activités? En réalité, tous ces centres d'intérêt sont reliés entre eux, et l'un me conduit vers l'autre. Il y a toute une série de questions qui me passionnent. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que la subjectivité? J'ai commencé mon parcours dans les sciences humaines et j'ai beaucoup lu sur la psychanalyse. En partie en raison des migraines dont je souffre depuis des années, j'ai développé un grand intérêt pour la neurologie et la biologie, et ces disciplines m'ont ramené vers la philosophie et l'épistémologie. Ma chance, c'est ma liberté. C'est la possibilité pour moi de ne pas être limitée à une discipline et de pouvoir me déplacer librement entre elles. Ma dernière publication, par exemple, figure dans le Journal européen de l'épilepsie, un magazine prestigieux et très spécialisé. On me sollicite fréquemment pour intervenir dans des colloques, des conférences. Ces assemblées de spécialistes semblent apprécier le fait que, sans être moi-même une spécialiste, j'ai néanmoins une bonne connaissance de leur discipline et je peux leur apporter une perspective plus large. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Siri Özved a surmonté deux obstacles dans sa vie. Un physique de mannequin scandinave, de star de cinéma, et un mari mondialement célèbre, Paul Auster. Quand elle l'a rencontré, il n'était pas encore connu. Il venait de divorcer et écrivait quelques critiques pour la New York Review of Books. Elle, fraîchement diplômée de littérature, écrivait des poèmes qui seront publiés peu après par le magazine littéraire Paris Review. Paul et moi, nous nous sommes trouvés par poèmes interposés. C'était une époque bohème et insouciante, et pourtant très difficile. Mais Siri est loin d'être seulement Madame Auster. Sur ce point, l'écrivaine met très vite les pendules à l'heure. Il ne faut pas oublier que quand j'ai rencontré Paul, il était poète et venait d'être refusé par 17 maisons d'édition. Je ne me suis jamais sentie dans l'ombre de Paul. C'est une vision extérieure de notre couple. Nous partageons notre travail, j'ai tout lu de lui, il a tout lu de moi, il est mon premier lecteur et vice-versa. Mais rassurez-vous, pas de censure, ni d'intervention intempestive. Je lui signale une répétition, il me remplace un adjectif, bref, la routine. Mon identité intérieure, ce n'est pas la femme d'Auster, même si pour certains journalistes, c'est ce que je serai toujours. Vous avez à préserver votre identité, votre singularité, parce que c'est ce qui est au travail quand vous écrivez. Et j'écrivais bien avant de rencontrer Paul. Le couple aura une fille, Sophie Auster, née en 87, et qui deviendra chanteuse. « Je me demande souvent quelle mère j'ai été, » dit Siri Özved, « et quel parent je suis aujourd'hui. Si mes recherches sur l'enfance et la psychanalyse, par exemple, ont façonné l'éducation de ma fille. Le pire, c'est que je ne rêve pas d'être une mère idéale, mais suffisamment bonne, pour reprendre l'expression si juste du psychiatre anglais Donald Winnicott. » À New York, où elle vit, Siri Özved s'astreint à une discipline précise. Levée aux aurores, écriture de 7h à 13h, puis 2h de lecture dans l'après-midi. Extinction des feux à 22h. Vous notez qu'il faut écrire de l'intérieur et non de l'extérieur. Que voulez-vous dire? C'est une sorte de mesure de sentiments plutôt du juste ou du faux. Lorsqu'on écrit, le rythme est essentiel et il est intérieur. En relisant un texte que j'avais publié, je me suis dit « tiens, quelque chose cloche ». La rédaction avait un peu coupé le texte et, ce faisant, avait rompu le rythme intérieur de mon écriture. En le lisant, je l'ai immédiatement ressenti. Rien de grave, bien sûr, mais ce qui m'intéresse, ce sont ces rythmes qui sont constitutifs de nos créations. Le rythme? Oui, nous sommes des êtres de rythme. Il suffit d'y penser. Les battements du cœur, la respiration, marcher, courir, sauter, le jour et la nuit, tous les rythmes circadiens. Les êtres humains sont des processus. Et la complexité de tous ces rythmes est, je crois, toujours présente en art. En musique, c'est très clair. En écriture aussi. Mais dans la peinture également, on perçoit le rythme de la touche, des gestes, la présence du corps de l'artiste. Il y a une question, Sirius Ved, qui traverse l'ensemble de vos écrits, que ce soit vos travaux scientifiques ou vos romans. C'est la question de l'identité. Votre premier roman, Les yeux bandés, raconte l'histoire d'une femme qui vit à New York et essaie plusieurs identités successives. Mon premier roman, j'en fais à présent une lecture très féministe. Il s'agit d'une femme qui résiste à la pression des autres, aux idées qui viennent de l'extérieur, et tenterait de lui imposer une définition de qui elle est. Elle ne veut pas être noyée par le désir des autres. Plus généralement, je suis très intéressée par la question de la relation entre les personnes. Qu'est-ce qui se passe entre deux personnes et comment cela affecte chacun des partenaires de la relation? Je lis à ce propos Martin Buber, un théologien juif qui est un penseur du dialogique. Il réfléchit à la façon dont nous devenons qui nous sommes à travers les relations qui se tissent entre nous et les autres dès la naissance. Il attribue une réalité existentielle à cet espace du « je »,« tu », de l'entre-deux. On ne peut penser l'humain en dehors du relationnel. Donc oui, la question de l'identité fait le lien entre tous mes travaux. C'est une question à laquelle il n'existe pas de réponse définitive et qui m'a entraînée sur plusieurs chemins et vers plusieurs disciplines. Mais à cette question de l'identité, où avez-vous le sentiment d'avoir trouvé les réponses les plus satisfaisantes? Dans la science ou dans la fiction? L'écriture de fiction est ce qu'il y a de plus difficile, mais sa gloire est qu'elle est le contraire du réductionnisme. Elle n'est réductible qu'à elle-même. Elle concerne la singularité de l'expérience individuelle. La fiction apporte une forme de réponse à la question de la multiplicité, de la pluralité de l'identité. Elle permet de parvenir à des vérités que les autres disciplines ne peuvent pas atteindre. La fiction puise dans des lieux inconscients chez l'auteur, de sorte que l'on peut dire qu'un livre en sait plus que son auteur. Un chapitre de votre dernier livre raconte un échange avec votre mère, un échange qui a beaucoup compté pour vous. Oui, la phrase de ma mère « Ne fais pas ce que tu ne souhaites pas faire » est une reconnaissance de la pression qu'exerce sur nous le monde extérieur, pression qui est d'autant plus forte sur les femmes. Je suis en train de rédiger un article qui va paraître dans une anthologie intitulée « 50 Shades of Feminism » et dans laquelle 50 femmes vont s'exprimer sur ce que le féminisme veut dire pour elles aujourd'hui. Pour ma part, je vais écrire sur le sexisme inconscient. En effet, je n'ai pas eu à me battre pour aller à l'école. Je n'ai pas subi de mutilation, je n'ai pas été mariée de force. Néanmoins, je suis confrontée au sexisme inconscient et je peux vous raconter des dizaines d'anecdotes à ce sujet, depuis le critique qui pense que c'est Paul Auster qui écrit mes romans, jusqu'au journaliste qui affirme que c'est Paul qui m'a tout appris de la psychanalyse, en passant par celui qui se permet de commenter mon travail en me prodiguant des encouragements. Dans mon essai, je reviens sur l'opposition entre les sciences qui sont codées comme étant masculines et les arts qui sont codés féminins. Par conséquent, lorsque les hommes s'adonnent aux arts, ils les anoblissent et les virilisent, alors que lorsque les femmes exercent dans la science, ce sont elles qui se virilisent. Il faut prendre conscience de toutes ces formes de sexisme inconscient pour parvenir à les combattre.
Dans un corps vide, entrait mon âme, tout à coup, être une autre femme, et que Juliette nous rétine. En l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs cinées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin. Garbo dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mademoiselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien leur trépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Pilipolide. Tout voile d'or et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan.
Extrait d'Un été sans les hommes, paru en 2011, de Siri Özved. Abigail s'était arrangée pour que je vienne voir ses ouvrages. Son appartement était plus petit que celui de ma mère, et au premier abord, je me sentis submergée par les étagères garnies de minuscules figurines de verre, les coussins et panneaux brodés, Home, Sweet Home, et les patchworks multicolores drapés sur les meubles. Toutes sortes de créations artistiques couvraient une grande partie des murs, ainsi qu'Abigail en personne, qui arborait une longue robe flottante ornée de ce qui ressemblait à un alligator et autres créatures. Elle m'installa dans un fauteuil, m'offrit des biscuits et un verre de lait comme si j'avais 7 ans, et puis, sans préliminaire, apporta les 2 ouvrages qu'elle avait sélectionnés pour que je les examine, et les posa l'un au-dessus de l'autre sur mes genoux. Ensuite, elle gagna lentement le canapé vert et s'y déposa avec précaution, dans une position qui faisait peine à voir. Mais son expression joyeuse et ouverte atténuait ma gêne, et je saisis la pièce du dessus. « Celle-là est ancienne, » dit-elle. « Ne m'embarrasse pas. C'est le mieux que je puisse dire. Au moins, celle-là ne m'embarrasse pas. Après que je les ai terminées, certaines se mettent à m'embarrasser. » Et alors, il faut que je les range droit au placard. Eh bien, qu'en pensez-vous ? Après avoir chaussé mes lunettes de lecture, je contemplais une scène compliquée, représentant ce qui m'avait tout l'air d'un cliché. Au premier plan, un garçon blond comme un chérubin, fait de feutrines découpées, dansait avec un ours devant un décor floral exubérant. Au-dessus de lui, apparaissait le visage souriant d'un soleil jaune. « Gentil tout plein », pensais-je. Béa affectionnait cette expression moqueuse. Mais alors, en regardant mieux, je remarquai derrière le garçon insignifiant, presque caché par les feuillages, une minuscule fillette, dont la silhouette était brodée en fil aux couleurs passées. Brandissant comme une arme une paire de ciseaux d'une grandeur disproportionnée, elle adressait à un chat endormi un sourire malveillant. Je remarquai ensuite, au-dessus d'elle, une sorte de dentier pourvu d'ailes roses pâles que l'on aurait pu prendre pour des pétales, et un passe-partout d'un vert grisâtre. Continuant mon investigation, des formes dans les feuillages, je vis quelque chose qui ressemblait à une paire de seins nus dans une petite fenêtre. Et peu après, quelques mots dont les caractères étaient si petits que je dus les tenir à bout de bras pour les lire. « Oh, souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. » Chers auditeurs, merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h et restera disponible en podcast, comme d'habitude, sur le site de Radio B. En juillet, je vous lirai avec plaisir et délectation quelques extraits de l'essai de René Barjavel, « La fin du tigre », un livre passionnant, sur la vie et la mort, l'homme, la science et Dieu. L'essai a 53 ans, mais il n'a pas pris une ride. René Barjavel disait qu'il aurait donné tous ses autres livres pour celui-ci. Je n'y parviendrai peut-être jamais, écrivait-il, mais jusqu'à mon dernier souffle, je chercherai à comprendre. Comprendre où je suis, et ce que je suis, et ce que j'y fais. Et à quoi ça rime ? Ce corps qui s'est construit sans moi et qui vit sans mon intervention, cet esprit qui l'enferme dans un scaphandre, qu'ont-ils à faire ensemble ? Vers quel vase ou quel trésor s'enfonce-t-il dans l'océan de la matière? Cette chair, souffrante et jouissante, qui me commande, et qui est faite de vide et qui saigne, qui a reçu du fond des âges une vie qui la laissera tomber et pourrir. Cet esprit qui aura à peine le temps de naître avant de s'évanouir. Je veux comprendre, comprendre, comprendre. À très bientôt sur Radio B.